Bienvenue à ce second discours. Nous sommes à une période de la retraite où il se pourrait qu'il y ait des moments difficiles à vivre pour certains. Il y a eu des moments difficiles à vivre ou que vous êtes en plein dedans, en fait, pour tout un tas de raisons, que ce soit des crises curatives, on en a déjà pas mal parlé, mais aussi juste simplement la difficulté d'être dans le silence, parfois ce que ça nous renvoie aussi, des choses qui émergent. Des questionnements profonds, de la critique intérieure peut-être, du manque d'amitié pour soi-même qui émerge. C'est des moments qu'on traverse en retraite. Je pense que probablement personne n'a fait de retraite sans avoir des moments comme ça. Et pour certaines personnes, ça peut être là plus fort ou plus longtemps ou plus régulièrement. Mais pour tous, c'est des moments quelque part qui s'invitent dans nos retraites et qui sont nécessaires. Parfois, on a l'idée qu'on va à une retraite de méditation et on va se poser l'esprit et tout va être beau, paisible. On va se sentir connecté à nous-mêmes, à la nature, au groupe. Parfois c'est comme ça. Mais jamais tout le temps. Jamais. Et quand c'est comme ça, quand on est connecté, que tout, qu'on sent ce beau et qu'on se sent en lien avec soi-même, c'est extrêmement régénérateur, ça nous redonne confiance, ça réouvre la vision pour le futur, ça nous permet de nous sentir posés, de nous informer sur notre nature profonde aussi, d'être en contact avec notre nature profonde. Donc c'est des moments qui sont importants dans notre évolution, dans notre recherche, mais les moments où émergent nos difficultés, les moments où c'est dur, là c'est des moments aussi qui sont très importants parce qu'ils nous travaillent. C'est notre être qui est travaillé là. C'est ce travail que souvent on fuit et qui du coup ne peut pas vraiment se faire parce qu'il n'y a pas l'espace pour qu'il puisse se faire. Et là, dans ce moment, il se fait. C'est un peu comme aller chez le dentiste. C'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et pour vivre tout ça, c'est absolument nécessaire pour traverser et pour faire fruit. Le plus il va y avoir d'amour, le plus ça va être grandissant, le plus ça va ouvrir, le plus ça va. Ça peut même parfois la douleur peut parfois être agréable quand il y a de l'amour. Vous avez peut-être déjà vécu ça, des moments vraiment difficiles et en même temps bizarrement agréables, comme une autre couche plus profonde, en même temps, deux atmosphères très différentes. Dur à vivre. Mais qu'est-ce que c'est bon que ça se passe? Et de sentir que c'est quelque chose qui fait du bien, que c'est quelque chose qui lâche. Sentir que c'est bon pour nous, que ça fait partie de notre chemin, que c'est ça qu'on doit vivre. Dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de ramener de l'amour dans notre expérience, de l'amour dans notre quotidien, de l'amour dans notre vie, de l'amour vis-à-vis de nous-mêmes? C'est un peu ce dont je veux parler ce soir. Profondément, vivre l'amour, c'est tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on cherche. Mais on n'a pas une compréhension suffisante de ce que veut dire vivre l'amour, à mon sens. Ça fait partie de l'exploration, ça fait partie de la recherche spirituelle que de comprendre ce que veut dire amour, ce que veut dire aimer, et d'apprendre à aimer. J'ai la conviction qu'une grande partie de nos souffrances viennent à la racine de notre incapacité d'aimer. Bizarre, on pourrait croire que l'amour, c'est tellement naturel qu'il devrait être là tout le temps. Mais regardons autour de nous et regardons en nous, c'est pas du tout le cas, en fait. Même si l'amour est quelque chose de naturel, on peut très facilement lui fermer la porte pour tout un tas de raisons. Il devient conditionné. J'aime si. Si les conditions sont bonnes pour que j'aime, alors j'aime. Et parfois, on a des conditions très très dures. On aime l'autre si il est comme on veut qu'il soit. On s'aime soi-même si on correspond à une image qu'on a de nous-mêmes. Si on ne correspond pas, alors on ne s'aime pas. Et très souvent, on ne correspond pas. Et l'image qu'on a de nous-mêmes, elle est ailleurs que là où on en est nous-mêmes, toujours. Si on attend de correspondre à l'image qu'on a de nous-mêmes pour s'aimer, alors on n'arrivera jamais vraiment à s'aimer. Alors pour moi, pratiquer le chemin spirituel, c'est apprendre à aimer. C'est un thème, vous le savez bien, tellement vaste. Comment naviguer ce thème en 1 heure? C'est la question que je me pose. Je vais essayer de faire un chemin, sachant très bien qu'il y a des endroits immenses que je ne visite pas et qui sont nécessaires à la compréhension. Peut-être commencer par dire que je pense que ce qu'on désire tous profondément, c'est goûter l'amour. Et on goûte l'amour au moment où on aime. C'est quand nous, on aime, qu'on goûte l'amour. Je dis ça parce que souvent, il y a déjà une confusion à cet endroit-là, que souvent, on va chercher à être aimé. Et on va chercher à se sentir aimé par d'autres. Et on peut avoir tout un tas de stratégies pour ça. Et même la construction de toute notre identité est en lien avec ce désir d'être aimé, ce désir d'être apprécié, ce désir d'être vu, ce désir d'être reconnu. Et il y a quelque chose de valide là-dedans. Mais on peut vite s'y perdre. Et par contre, si nous, on arrive à aimer, alors déjà toute une partie de nos problèmes disparaissent. Rappelez-vous, un moment où vous avez vraiment aimé, dans ce moment-là, où sont les problèmes? Donc, je pense qu'on pourrait dire que l'objectif, en tout cas en parlant pour moi de ma recherche, et d'avoir cette capacité d'être de plus en plus ouvert et de plus en plus aimant, de plus en plus en lien d'une façon humaine avec toute chose. Une manière déjà toute simple, je pense, d'amener des petites touches d'amour dans cette retraite, c'est à travers la gratitude, qui est une forme d'amour, de reconnaissance, d'appréciation, toutes des qualités de l'amour en fait. Et un endroit qui est simple et sain, c'est la gratitude pour les repas. Puisqu'on est à nourrir son corps et son esprit, on peut rajouter ça dans notre pratique. Pas simplement de manger en pleine conscience, pas simplement de mâcher un certain nombre de fois, pas simplement d'être présent au goût. Mais peut-être avant de commencer à manger et en mangeant, de reconnaître tout ce qu'il a fallu pour que ce bol de soupe soit là. De reconnaître dans ce bol de soupe la présence de tout l'univers, de la pluie et du soleil, du travail des agriculteurs, du travail de la nature, de toutes les conditions qui ont été nécessaires pour que ce bol soit là. Et là, on va manger avec plus de respect. On va manger avec plus une qualité d'amour. Donc, dans ce moment-là, ce qu'on va vivre, cette reconnaissance, c'est de l'amour. On va aimer ces légumes, on va aimer cette soupe, on va aimer ce riz. On va pas simplement le manger. On pourrait aussi le manger en se disant est-ce que ça sera assez? Il faut vraiment que je mâche bien, bien, bien pour nourrir mon corps parce que sinon je risque d'avoir faim plus tard et d'avoir ce genre de considération. Et c'est juste aussi. Mais là, on amène une autre considération qui va nous toucher le cœur. Et on peut essayer de créer des moments. Et c'est intéressant. On peut essayer de créer des moments où on ressent de l'amour. En voilà. Voilà un, on ne veut pas. Gratitude pour le repas. Mais on peut faire ça en méditation aussi. En méditation, et c'est ce dont je vais parler, c'est ce que je vais introduire et ce que je vais guider après, c'est cette faculté, cette capacité qu'on a de, grâce à la mémoire, à l'imagination, de ressentir et d'amener à notre esprit et de vivre des situations qu'on décide, à la manière dont on le décide. Donc je vais présenter cette forme de méditation que certains d'entre vous connaissent, et puis je la guiderai au moment de la méditation, et puis il y aura un temps pour des retours et des questions, parce que c'est une méditation dans laquelle il y a beaucoup de choses à comprendre. Cette méditation dont je vais parler, elle est, à mon sens, cruciale. Elle est essentielle. Elle est essentielle parce que si on pratiquait juste le chemin de la pleine conscience ou le chemin de la connaissance, comme on a démarré maintenant, sans pratiquer ce chemin de l'amour, la pleine conscience et la connaissance ont bien sûr un lien. Tout est lié. Mais c'est beaucoup trop lent et trop aride. Alors que pourquoi se priver? Pourquoi se priver d'aimer? Pourquoi se priver dans le moment de vivre une situation d'amour? Quelles seraient les raisons? Et je pense qu'il est absolument nécessaire que dans notre pratique, à tous les niveaux, je pense qu'il est nécessaire que ce qui initie, ce qui donne une dynamique à notre pratique, ce soit l'amour. Donc dans cette pratique qui s'appelle Metta, on va commencer par penser à quelqu'un qu'on aime beaucoup, avec qui on n'est pas en conflit. Et on peut arriver, alors la visualisation est parfois difficile pour certains, mais c'est quelque chose qui s'entraîne, mais on peut arriver à ressentir la présence de cette personne. Si on est bien dedans, on va sentir comme si cette personne était là. On est les yeux fermés et on se sent en contact, on se sent en lien avec cette personne qu'on aime beaucoup. Et à cette personne, on va souhaiter de belles choses. On va laisser émerger en nous des souhaits qu'on a envie de souhaiter à cette personne. On va souvent souhaiter d'être en bonne santé, d'être libre de la souffrance, d'être heureux. Mais après, des souhaits peut-être plus spécifiques vont venir. Plus voilà, vraiment, c'est ce que je te souhaite. Et on se sent en lien. Et parfois, on se sent touché. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On vit de l'amour. On est là sur notre coussin et en fait, on vit de l'amour. On a ramené de l'amour dans notre moment présent. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire de plus en plus. Ramener de l'amour, trouver toujours une manière de ramener de l'amour et donc du sens dans notre moment présent. Et on fait ça avec quelques personnes. Et puis après, on va se mettre en contact avec nous-mêmes. Et c'est à nous-mêmes, en fait, qu'on va souhaiter d'être heureux, d'être en bonne santé. Et puis voir ce qu'on veut se souhaiter. Et là, c'est très important. Là, juste cet endroit-là, c'est une pratique en elle-même. C'est un monde. C'est immense. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut souhaiter. Au début, c'est pas clair. À être heureux, être en bonne santé, puis on va avoir quelques souhaits qui sont assez généraux, qu'on pourrait souhaiter à tous, mais à soi, qu'est-ce qu'on voudrait souhaiter? On pourrait se souhaiter des qualités, comme par exemple d'acquérir la patience. On peut se souhaiter que dans cette vie, on ne soit plus dominé par la colère, ou dominé par le désir. On peut se souhaiter d'avoir plus de discipline. On peut se souhaiter de découvrir notre propre lumière et de la laisser rayonner sur tous les gens qui nous entourent. Et on peut, en fait, ça peut devenir très riche. Et on peut aller chercher, et quand on pratique jour après jour, mois après mois et année après année, on commence à avoir des souhaits qui sont fins, ajustés. Et en pratiquant de cette manière, et pour celui qui pratique régulièrement, Il va s'imbiber de ses souhaits. Il va imbiber son esprit de ses souhaits. Il va imbiber son esprit de bienveillance et d'amour vis-à-vis de soi-même. Et ça va changer la relation qu'on a à nous-mêmes. Sans aucun doute. Absolument sans aucun doute. Et ceux qui pratiquent cette pratique d'une façon régulière seront tous là pour en témoigner. Si par exemple, on se souhaite tous les matins, imaginez tous les matins, vous méditez et vous vous souhaitez d'être doux avec vous-même, moins jugeant, moins cassant. Voilà ce que vous vous souhaitez. Vous souhaitez de la douceur dans la relation que vous avez avec vous-même. Vous souhaitez de ne plus vous insulter. Parce qu'on s'insulte parfois. De ne plus vous juger durement. De ne plus vous condamner. Donc ça vient avec nos mots. Et puis à un moment, on le vit en fait. Pendant ce moment-là, on se voit, on se ressent avec la capacité, on s'aime. Et de ne plus se condamner, de ne plus se juger durement. Et imaginez que vous faites ça pendant des semaines, des mois. Qu'est-ce qui se passe à un moment où, dans une situation quelconque, vous vous insultez? Et bien là, quand il y a un moment où il va y avoir une critique intérieure ou un jugement qui est dur, il va y avoir une autre voix qui va s'élever, parce qu'elle a été cultivée. Elle est là aussi. Et là, on va voir, en fait, qu'on est en train de s'insulter et que tous les matins, en fait, on se souhaite à nous-mêmes de ne plus s'insulter. De ne plus avoir ce type d'attitude vis-à-vis de nous-mêmes. Et on va pouvoir remplacer. Et on va pouvoir dire, ah non, excuse-moi, j'ai fait une erreur, c'est tout. Vous voyez, en fait, notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes va changer. Parfois, cet endroit-là, c'est pas le plus facile. Mais on va continuer, elle va évoluer, cette pratique. Là, on en est, j'ai envie de dire, à la deuxième partie, il y a d'autres parties. Mais c'est pas la plus facile pour certains, surtout quand il y a beaucoup de critiques intérieures, peu d'estime de soi. À ce moment-là, on peut venir à cet endroit-là et autant pour les gens qu'on aimait, c'était facile, riche, on avait plein de souhaits. Quand c'est pour nous, rien ne vient. On n'a pas d'idée de ce qu'on pourrait souhaiter. Ça, c'est possible. Ou alors on va souhaiter quelque chose et la critique intérieure directement va sauter dessus et dire non mais ça c'est pas pour toi ou toi t'es pas capable ou il faudrait déjà que tu le mérites. Genre un grand classique c'est je me souhaite d'être en bonne santé et directement il va y avoir des pensées bah déjà faudrait que j'arrête de fumer et que je fasse un peu plus de sport. C'est devenu conditionnel. Alors qu'en fait on a le droit de se souhaiter d'être en bonne santé, même si on ne fait pas de sport et même si on fume. On a le droit de se souhaiter ce qu'on veut. À plein d'endroits, la critique intérieure peut venir dire « Oui, mais non, t'es pas assez bon, t'es pas assez bonne pour ça. C'est pas la peine que tu te souhaites ça, c'est pas vraiment pour toi. Faut d'abord que tu changes. Conditionnel. Amour conditionnel. Je t'aimerais si... » Bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. C'est pas dire, c'est un endroit difficile parce que s'aimer, je pense que c'est comme avec un enfant. Quand on a un enfant, eh ben on l'aime comme il est. Mais ça veut pas dire qu'on veut qu'il reste tel qu'il est. Il y a des choses on voudrait bien lui apprendre parce qu'on sait que quand il aura appris ça, ça et ça, il sera plus, il sera plus à même d'être heureux. Il y a des choses qu'on doit lui apprendre. Et parfois d'une façon suffisamment sévère pour son bien. Hein, ça fait le lien un peu avec l'attitude de Rumi hier, dans laquelle il y avait une dureté et du combat. Mais ça ne veut pas dire que, oui, il y a des aspects de cet enfant qui ne vont pas, et on veut l'éduquer à autre chose. C'est pas dire qu'il est tout bien comme ça et qu'il peut rester comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas 100% d'amour. Et pour nous, ça devrait être pareil. On devrait pouvoir, ou en tout cas on devrait travailler à être capable de s'aimer 100% comme on est, qui ne veut pas dire tout accepter, laisser comme ça. Et donc souvent dans cette pratique va venir la critique intérieure qui va faire qu'en fait on n'y croit pas vraiment. d'une manière ou d'une autre.
Et c'est intéressant de le voir, parce que cette critique intérieure, elle est tout le temps là. Si vous avez ça, ça veut dire que là, vous êtes en train de le voir parce qu'on pratique la méditation et qu'on a allumé la lumière à l'intérieur, mais en fait, c'est tout le temps là. Ça joue à l'arrière-plan de votre esprit, et ça empêche d'être pleinement ouvert. Ça empêche de fleurir. Ça a un impact sur la manière dont on vit. Puis, après, la pratique va vers un autre endroit, on va amener à notre esprit des gens qu'on connaît peu, qu'on voit souvent comme le facteur, ou un chauffeur de bus, caissier, caissière, ou peut-être quelqu'un de cette retraite qu'on ne connaît pas du tout. Et à cette personne, on va, tout en essayant de ressentir l'authenticité, qui n'est pas forcément facile au début, mais de vraiment sentir comme si vraiment on souhaite, comme si on avait vraiment envie que cette personne soit heureuse. Comme si c'était vraiment important pour nous, en fait. Et qu'elle soit en bonne santé, et qu'elle trouve les chemins pour se libérer de la souffrance, et qu'elle soit libre de toute névrose. Et quelques souhaits, alors là, comme on ne connaît pas la personne, c'est pas très spécifique, les souhaits. On peut souhaiter ce que tout le monde souhaite, en fait. Et là, de nouveau, pendant qu'on fait ça, ce qui est très intéressant, c'est on vit de l'amour. On est tout le temps en train de vivre de l'amour. Vous voyez, cette méditation, en fait, génère la sensation d'aimer. Donc la réalité d'aimer. On est dans un moment de réalité où vraiment on aime. Et on aime aimer. C'est bon. Et c'est un endroit qui est très très agréable. Quand on rentre dedans, parfois c'est pas tout de suite. Il y a des fois où on rentre plus, des fois comme la méditation, hein. Des fois on rentre plus dedans, des fois on rentre moins dedans. Mais quand on rentre dedans, on n'aurait pas envie de s'arrêter. On va trouver toutes les personnes, l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre, parce qu'en fait c'est super agréable. C'est vraiment, on peut passer un très beau moment. Et ce qui est magnifique, c'est que cet endroit-là, ça peut se faire dans notre quotidien, partout, parce qu'il y a des gens tout autour de nous très souvent. Et on peut les regarder, et à l'intérieur, sans leur dire, hein, mais à l'intérieur, on peut leur souhaiter de passer une belle journée, d'être en sécurité, que les problèmes qu'ils ont dans la vie se résorbent. Et c'est absolument, absolument étonnant à faire. Vraiment, j'espère que vous pouvez sentir ce dont je parle et le comprendre suffisamment pour l'essayer. Si vous voyez beaucoup de gens, les moments où je préfère faire ça, c'est dans les lieux où il y a beaucoup de monde. Ça va être, par exemple, c'est quelque chose que je peux faire si je fais la file au magasin, c'est quelque chose que je peux faire si je suis en transport public ou si je suis dans une gare en attente. Et là, il y a des gens. Eh ben parce que ça fait partie de ma pratique. Le matin. Donc je sais faire ça. C'est comme toute chose, ça s'apprend en fait. Et alors je regarde les gens et dedans c'est tout souriant en fait parce que je leur souhaite des belles choses. C'est extrêmement agréable. Et quand on est avec ces gens pendant un certain temps, et c'est un exemple que je prends souvent parce qu'il est, mais c'est tellement vrai en fait, si on est dans un bus ou dans un tram, quand vraiment on se connecte aux gens et qu'on leur souhaite. Alors ça peut être très très coloré, ça peut être je te souhaite de trouver cette lumière en toi qui soit présente tout le temps, qui te touche et qui rayonne sur tous ceux qui t'entourent, et on voit les gens, en fait on voit les gens s'éveiller, on voit les gens s'apaiser, on souhaite aux gens qui s'apaisent, on souhaite qu'ils soient capables d'aimer et que partout ils aillent, en fait ils aiment. Et pendant ce temps-là, on vit des choses magnifiques, en fait. Et ça se trouve, on est dans le métro à Paris. Et ce qui est génial, c'est que on se sent en lien avec les gens. On n'est pas tout seul. Et là, quand je disais que l'amour est souvent une solution à nos problèmes, c'est que si je faisais pas ça, peut-être je serais en train de me dire, alors oui, alors il y a ça qui va pas très bien dans ma vie, peut-être il faudrait que je prenne des cours de machin ou il faudrait que je médite plus. Si je méditais de plus, peut-être je pourrais un peu évoluer dans ces difficultés que j'ai. Et hop, on tourne sur soi, en fait. On est pris dans nos propres problèmes et on oublie qu'il y a de l'amour à vivre. Et plus on oublie qu'il y a de l'amour à vivre, moins on amène l'amour dans notre regard, dans notre quotidien, plus notre vie semble pauvre. Parce que c'est l'amour qui manque. Et plus notre vie semble pauvre, plus on cherche des solutions, on cherche des solutions. Et on peut aller faire tout un tas de techniques et faire plein de choses. Et chercher encore plus à être aimé. Et chercher à devenir encore autre chose que ce qu'on est pour être plus aimé. Et on peut s'engager dans des projets immenses à vie. Pour trouver la sensation d'amour. Mais la sensation d'amour, elle nous manque parce qu'on est tellement préoccupé par nous-mêmes qu'on n'a plus notre regard vers l'extérieur pour aimer suffisamment. Vous voyez un peu le cercle vicieux? Alors ça, c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à pratiquer, celui qui l'entend, mais c'est vraiment quelque chose à pratiquer. C'est beau de se rappeler, dans tout moment où on est perdu, on est là avec notre chariot au magasin, et puis on a une file à faire, et ben on a deux solutions, soit on reste dans nos pensées habituelles comme d'hab, soit on peut revenir à une espèce de pleine conscience, la sensation du corps, une sensation de présence. Moi, je vais utiliser la respiration, c'est magnifique, hein. Quitter les pensées, juste être là, simplement être là. La pratique, un peu comme on l'a guidé, comme je l'ai guidé jusque maintenant. Mais on peut aussi regarder autour de soi et puis voir les gens et leur souhaiter des belles choses. Et là, à ce moment-là, du coup, on vit de l'amour. Et c'est la classe. Franchement, c'est vraiment ce qu'il nous fallait à chaque fois. Il n'y a pas d'erreur. C'est aussi ce qu'il faut faire quand on est pris par le marasme. Cette pratique, méta, on l'appelle l'antidote. C'est l'antidote à la critique intérieure, parce qu'elle va transformer la critique intérieure. Parce que comme je l'expliquerai, la critique intérieure va être de plus en plus vue quand on a une attitude bienveillante vis-à-vis soi-même, ça contraste et ça va pas bien ensemble, et du coup la bienveillance prendra le pas, mais aussi vis-à-vis d'autres personnes. Je me rappelle d'une retraite que j'ai faite, c'était dans un à Auschwitz, dans le camp de concentration, c'était une retraite zen. Et je suis sorti de cette retraite, mais... Ben, comme vous l'imaginez bien, complètement bouleversé. Et le sol s'effondrait sous mes pieds, je n'avais plus confiance. J'avais perdu confiance dans l'humain, j'avais perdu confiance. Je sentais une peur. Je sentais une peur de comprendre que ça pouvait de nouveau se reproduire. J'étais profondément affecté. Et là, à l'intérieur de moi, c'était très gris. Et le lendemain, je marchais sur la Grand Place à Varsovie. Vraiment dans cet état d'esprit, tout gris, tout affecté, tout plombé. Puis c'est venu tout seul, en fait, de voir les gens qui étaient là et de leur souhaiter d'être libres de la souffrance, de leur souhaiter d'être heureux. Parce que c'était ça, en fait, qui me plombait, c'était la possibilité que ça ne soit pas le cas. Et c'est venu, j'ai commencé à me sentir connecté et ça m'a reconnecté aux gens. Et puis j'ai ressenti de nouveau cette bienveillance et cet amour. Et ça a transcendé cet état de marasme. Et on peut transcender notre marasme. Celui qui a une bonne... qui a fait de cette pratique la sienne, de cette habitude d'esprit, qui a pris une certaine maîtrise de cette habitude d'esprit, peut... À n'importe quel moment, quand on se sent enfermé, quand on se sent moins que rien, quand on se sent pas bien, on peut toujours ramener la méta. C'est l'antidote. Et ça va ramener de la lumière à l'intérieur, parce que ça va ramener de l'amour. Mais il faut l'avoir pratiqué sur le coussin. Toutes les pratiques commencent sur le coussin, et après ça, on va dans le grand monde. C'est un entraînement de l'esprit. Quand on souhaite à des gens d'être heureux, d'être en bonne santé, peut-être que ça a un impact à distance sur certaines personnes. Il y a eu des recherches et tout ça, mais c'est pas vraiment ça qui m'importe, en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est en fait que j'entraîne mon esprit à être attentif aux autres et bienveillant. C'est un entraînement de l'esprit. Et quand l'esprit est bien entraîné, à tout moment, on peut s'en rappeler et hop, là, on le repose. Après, on invite dans notre esprit des gens avec qui on a une tension ou un conflit. Alors, quand on débute, on évite les gros dossiers. C'est pas là qu'il faut débuter. Les petites tensions, ça ira bien. Ça peut être dans le couple. Il y a eu un truc un petit peu tordu, là on a peut-être un bon couple, mais il y a un truc qui est un peu tordu. On peut aller vers notre partenaire avec notre esprit, avec notre cœur et sentir tout l'amour, souhaiter d'être en bonne santé avec des amis. Ça peut être une tension, voilà, avec un voisin. Avec... Et on va inviter à notre esprit plusieurs personnes avec qui il y a une tension ou un désaccord ou un conflit. Et là, cet endroit-là, de nouveau, ils sont tous intéressants, mais il est très intéressant, cet endroit-là. Parce qu'il pose plein de questions, en fait. Et là, il faudra être fin aussi, dans notre compréhension. Surtout si on veut en venir un jour au gros dossier. Dans quelle mesure, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire souhaiter à quelqu'un qui a fait du tort d'être heureux? Est-ce que c'est juste ou pas? Déjà, c'est une question légitime. Est-ce que c'est juste de souhaiter à quelqu'un qui a fait du tort ou qui fait du tort? Et ça ne doit pas être que dans notre entourage, hein, ça peut être des hommes politiques, alors il y en a plein. Ah, il y a des gens parfois qui disent « Ah, moi, j'ai pas vraiment de conflit avec personne. » Bah, vas-y, regarde du côté des hommes politiques. Et tu trouveras probablement des gens avec qui tu es en profond désaccord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de souhaiter à quelqu'un qui fait du tort d'être heureux? Et là, ça demande une finesse. Et tant qu'on n'a pas compris ce qu'on voulait dire par là, parce que ça ne veut pas dire être d'accord avec l'attitude, valider l'attitude, très certainement pas. Donc tant qu'on n'a pas bien compris ce que ça voulait dire, il vaut mieux ne pas le faire. Peut-être une piste d'exploration, mais ça aura besoin, vous aurez besoin de vos propres réflexions pour arriver à des conclusions. On parle ici de l'amour inconditionnel de nouveau. L'amour, pas aimer les gens, il y a plein de sortes d'amour. Il y a l'amour passion, il y a l'amour de la relation amoureuse, il y a l'amour amitié, il y a l'amour de l'estime et du respect. Tout ça, c'est des qualités de l'amour. Et donc, on peut avoir, on peut souhaiter... En fait, je pense qu'une réalisation nécessaire et une réflexion nécessaire pour pouvoir souhaiter à des gens qui nous ont fait du tort ou qu'on voit faire du tort, d'être heureux ou de trouver les chemins du bonheur. Moi, c'est plutôt ça, en fait, que j'utilise, de trouver les chemins du bonheur, comme je pourrais l'utiliser pour nous tous, hein. C'est que j'ai la profonde sensation et conviction qu'une personne qui crée beaucoup de tort autour d'elle, qui génère beaucoup de souffrance, c'est parce qu'à l'intérieur, elle n'est pas en plein amour. Et c'est que à l'intérieur, dedans aussi, ça cogne. Et c'est pas très agréable. Souhaiter à une personne d'être heureuse, c'est implicitement savoir que cette personne va rayonner de la générosité, de la douceur, et des choses qui seront bonnes pour les gens qui sont autour. Alors là aussi, c'est une pratique, j'ai presque envie de dire amusante à un certain niveau. C'est quand on a des conflits un peu sur le long terme avec certaines personnes, des tensions. Un exemple que j'ai souvent pris, c'est un conflit que j'avais avec un voisin. C'était il y a un bout de temps maintenant parce que ça s'est solutionné, mais ça a duré longtemps. Et c'était pas à propos d'une chose, mais c'était dans son attitude, en fait. Et j'arrivais pas à avoir face à lui, j'arrivais pas à être qui je voulais être. J'arrivais pas à lui répondre à la manière dont j'aurais aimé lui répondre. C'était quelqu'un qui criait beaucoup et quand il criait, il s'emportait. Ça me bloquait, en fait. Et moi, j'arrivais plus à rien dire. Et donc, j'ai pratiqué pendant longtemps avec lui. Ah, il était une des personnes que j'invitais à mon esprit et non seulement je lui souhaitais d'être heureux, d'être en bonne santé, ce qui en fait reconnecte à une humanité commune, puisque c'est ce que tout le monde veut. Ça ne voulait pas dire que j'étais d'accord avec son attitude, très certainement pas, mais je lui souhaitais d'être heureux, d'être en bonne santé. Et puis je m'amusais un petit peu à essayer de m'envisager dans la situation quand il se mettait à gueuler et de moi rester paisible et de moi lui dire ce que je voulais lui dire tout en gardant cette sensation que je lui veux du bien. sans rentrer dans le conflit, ne pas en fait créer un conflit, parce qu'il faut être deux pour créer un conflit, ne pas créer un conflit, ne pas créer une guerre, ne pas me sentir moi en guerre avec lui, mais réussir à être clair et à dire ce que je voulais dire. Et donc je pratiquais ça le matin, presque tous les matins. Et puis on se croisait sur la placette. Pas moyen, j'y arrivais pas. Je repartais, je faisais ah merde. Et puis le matin suivant, on recommence. Et puis bon, on n'avait pas des conflits tous les jours non plus. J'avais pas des milliers d'occasions, heureusement. Mais après, ça l'a fait en fait. À force, c'est un entraînement. On le comprend quand même. C'est une évidence. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est une évidence que quand on s'entraîne, même si on a les yeux fermés, qu'on génère une situation, on apprend en fait. On apprend une manière d'être, une manière de parler, une manière de faire. Et donc voilà, dans une situation, un moment où de nouveau, en fait, ce qui a été super, c'est que je l'ai vu arriver de loin et je savais que là, je voulais dire quelque chose. Et j'ai pu me remettre dans cette pratique et j'ai pu l'aborder à la manière dont je voulais vraiment l'aborder. C'est-à-dire calmement, mais sans laisser l'histoire s'échapper, même s'il se mettait à gueuler, je voulais réussir à dire ce que je voulais dire jusqu'au bout. Et ça a très bien fonctionné. Et ça a transformé très fort notre relation. Et maintenant, notre relation est bonne. Et c'est aussi parce qu'il change, mais c'est très certainement parce que moi aussi, j'ai changé à travers cette manière d'être dans le conflit, cette manière d'être avec lui, a changé toute la dynamique. Donc c'est très... Quand il y a un piège à cet endroit-là, c'est ceux d'entre nous qui ont peur du conflit, ça va être d'utiliser cette pratique pour dire c'est genre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Même lui, mais ok, même si il fait ça, finalement il mérite quand même d'être heureux, il mérite quand même. Et c'est comme si on voulait éviter le conflit en disant que finalement c'est quand même dans le fond, au fond, quelqu'un de bien et donc voilà. Et c'est un mauvais usage de cette pratique, je pense. Je pense que cette pratique, elle nous permet au contraire d'être beaucoup plus cash et de dire ce qu'on sait qu'on doit dire avec moins de peur. Ça ne doit pas être utilisé pour éviter. Après, on peut amener à notre esprit un groupe, par exemple nous tous, on le fera. Et c'est de sentir, en fait, sentir vraiment le groupe, on s'est tous rassemblés, on est là, on vit quelque chose d'incroyable ensemble, qu'est-ce qu'on voudrait souhaiter à chaque personne ici? Et puis, après, on peut prendre tous les gens d'un pays, on peut prendre tous les êtres humains, on le fera. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on en vient aux êtres humains, ça devient comme très théorique. C'est plus aussi spécifique, on voit plus les gens, c'est un concept en fait, tous les êtres humains. On n'a jamais eu, dans notre moment présent, une vision de tous les êtres humains en même temps, et on les verra jamais tous. Donc c'est vrai, c'est un autre endroit, j'entendais dire même que c'est une autre zone du cerveau qui gérait ça. Mais en fait, si on souhaite à cette humanité qui est quand même en grande difficulté de nos jours, si on réussit à souhaiter du beau, en fait, ce qu'on soigne, c'est notre relation à l'humanité. Et je rencontre de plus en plus de gens qui ont des grosses difficultés avec les êtres humains. Même presque de la malveillance vis-à-vis de l'humain. Parce que l'humain détruit, parce que l'humain se comporte à la manière dont il se comporte, il peut y avoir presque des souhaits malveillants. Plutôt que de souhaiter que l'humain trouve son chemin et devienne beau sur cette planète et fasse partie en fait d'un écosystème, hein, ce qu'on pourrait souhaiter, et soit bienveillant vis-à-vis de tout ce qui est vivant autour de lui, on peut souhaiter ça. Mais si on ne fait pas garde, on pourrait souhaiter aussi que l'humain se désagrège parce que de toute façon il n'arrête pas de faire n'importe quoi et que tout ce qu'il mérite c'est de disparaître de cette planète en faisant le moins de dégâts possible. Et ça, vous voyez, c'est des souhaits qui impacte notre relation à l'intérieur de nous-mêmes avec l'espèce humaine. Et donc, on soigne cette relation à l'humain à cet endroit-là de la pratique. Et puis, tous les êtres vivants. Alors, comme toutes les pratiques, je vais la guider bientôt. Il y a des moments où vous serez dedans, il y a des moments où vous ne serez pas dedans. Il y a un moment où c'est bien risqué, c'est quand on va aller sur des gens avec qui on a des conflits. Mais alors là, mais tout de suite, ça glisse dans l'histoire. Et on est reparti, et il aurait pas dû, et j'aurais dû faire comme ci, et finalement cela. Et on peut, parfois, si on est tout seul et qu'il y a personne qui guide, on peut être parti 10 minutes. Et on peut se retrouver avec les poings serrés, les mâchoires serrées, et on est parti dans un trip là, alors qu'on voulait juste souhaiter à cette personne d'être heureuse, d'être en bonne santé. On est parti complètement super loin, on a revécu pour la 1000e fois la même histoire, et on est tout tordu sur notre corps avec la respiration crispée et tout. Donc là, quand on en vient à cet endroit-là, moi quand je viens à ce moment-là, j'allume la lumière à l'intérieur, je prends une grande respiration, je me repose, je suis là, je sais que je suis là et je vais pas me faire avoir. Alors je me mets en condition pour pas me faire avoir. Sinon, c'est un endroit où ça glisse très vite. Mais d'une façon générale, en fait, c'est une pratique où, de moment, vous serez dedans, et puis, après ça, ça va partir ailleurs. Peut-être quand vous souhaitez à quelqu'un que vous aimez bien, ça vous fait penser que, peut-être, oh, vous aimeriez bien faire ça avec lui ou elle, ou bien, vous devriez faire plus ça pour lui ou pour elle, ou... Et c'est normal, en fait. Et quand vous remarquez que vous êtes parti, ah oui, ok. On revient avec cette personne, et si vous avez fini avec cette personne, bah, vous passez à la suivante. Voilà, il y a le même va-et-vient, au niveau de la conscience, que quand on se connecte à la respiration. Sauf peut-être si à un moment vous rentrez vraiment dedans, et à ce moment-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui roule, et on reste dedans en fait. C'est une pratique aussi où on peut vite avoir l'impression de mal faire, de ne pas vraiment y arriver. Ne vous souciez pas, allez-y, continuez, c'est comme pour tout, c'est un apprentissage. Donc vous verrez que c'est une pratique qui est très guidée, c'est vraiment pas à pas. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir tout le processus que je viens de décrire. Je vais vous amener, en fait, vous proposer ce voyage. Pour certaines personnes, il y aura la sensation de ne pas avoir assez de temps. Vous seriez bien resté plus longtemps à un certain endroit. Pour d'autres, ça sera déjà peut-être un petit peu long. C'est normal. Par après, vous aurez toute l'occasion, en fait, de le faire à votre propre rythme. Ici, c'est un peu la nature de la méditation guidée que ça aura un certain rythme qui ne correspond pas forcément à tous.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération, et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.